Cette semaine, on est allé 3 fois au ciné, on a fini et commencé une BD, acheté des livres, on a mangé dehors, on a regardé la télé, on a écouté des podcasts et on a passé 4 heures plongés dans la musique de nos 20 ans. Tout ça et encore plus en détail autour d'un café. Bonjour Marine.
Bonjour Yaël.
Bienvenue dans la semaine berlinoise.
The emptiness just flies away. You console all.
Commençons par quelques news. Déjà, sachez qu'aujourd'hui, c'est une date symbolique. Cela fait 3 ans que je suis arrivée, mon chat sous le bras, à Berlin. J'ai beau passer beaucoup de temps à Paris, 3 ans, c'est pas rien, et je suis heureuse de les célébrer avec vous. Nous avons décidé, du coup, pour l'occasion, de donner un titre à ce podcast, La Semaine Berlinoise. Nous avons aussi décidé d'expérimenter avec la structure de l'émission. Aujourd'hui, on fait dans le thématique. Cela risque d'évoluer au fil des semaines, nous croyons fermement à la méthode empirique, appelée avec affection en Allemagne « learning by doing ». Oui, oui, avec un accent français, c'est étrange, mais ils font ça. On espère que vous resterez avec nous pour l'aventure. Si vous ne nous trouvez pas sur iTunes, pas de panique, on est encore en train de décider du meilleur mode de diffusion pour ce pod. Mérite-t-il déjà sa propre chaîne? Vous le saurez vite. En tout cas, vous savez qu'on est vraiment chez nous et vraiment à Berlin et que c'est vraiment dimanche parce que vous entendez les cloches sonner comme tous les dimanches. Aussi en semaine.
Et encore, il est 11h.
Pour cela et tout le reste des news me concernant, suivez la page Facebook Le Notebook de Yelka. Je l'alimente tous les jours des trésors que je croise dans ma vie pop culturelle et je vous tiens au courant de ce que j'écris, de ce que je podcaste et souvent de ce que je pense. Vous pouvez même le partager, cela me ferait plaisir. Maintenant que les cloches ont arrêté de sonner, on va pouvoir écouter un peu de musique. Parce que oui, première nouveauté, maintenant on va parler de ça aussi. Il faut dire que ça joue un rôle central dans notre vie à Marine et à moi, presque autant que la bouffe. Alors on va partager chaque semaine une chanson avec vous. J'ouvre le bal avec un extrait d'un de mes albums préférés de la fin des années 90. Il faut dire qu'on a passé beaucoup de temps à écouter des trucs qu'on écoutait quand on avait 20 ans cette semaine. Alors cet album, c'est Beautiful Freak de Eels qui est sorti en 96, mais que moi j'ai écouté qu'en 99, donc pour moi c'est vraiment la fin des années 90. Mais il y avait une chanson que je connaissais par cœur de cet album avant de l'écouter vraiment, parce qu'elle était dans Scream 2. Autre film très important pour notre histoire. Alors c'est une chanson que j'aime parce qu'elle est désespérée et rythmée à la fois. Son titre le dévoile avant qu'on écoute une seule note. Je vous propose d'écouter Your Lucky Day in Hell.
Your lucky day in hell. Teresa, you can't make me into you. I never wanna be like you. Why can't you see? It's me. You know it's time to let me go. This could be your lucky day in hell. Never know who it might be at your doorbell. This could be your lucky day in hell. In hell. In hell. This could be your lucky day in hell. Never know who it might be at your doorbell.
Cette idée de quand même quelque chose de très dark avec cette première fois où il élève la voix au début de la chanson pour dire And no one's gonna know my name until it's on the stone. Et personne ne connaîtra mon nom jusqu'à ce qu'il soit sur une pierre. Il y a quelque chose de très dark et en même temps il y a cette espèce de musique qui donne plutôt envie de danser, de bon, pas danser en boîte jusqu'à la fin de la nuit, mais tu vois, il y a un côté hyper
danser sur la pierre, ça fait un peu
oui c'est ça non. Bah, c'est ça, Your Lucky Day in Hell. Donc voilà, je trouve que c'est une chanson absolument remarquable que je continue à aimer moins de 20 ans plus tard. Plus de 20 ans depuis qu'elle est sortie, moins de 20 ans depuis que je la connais. L'autre raison, c'est parce que pendant que j'étais en Russie, ma sœur d'accueil adorait un groupe de rap qui s'appelle Delphine, et une de leurs chansons était une chanson qui s'appelait Vaina, ce qui veut dire la guerre. C'est une chanson avec des très très belles paroles en plus, et qui était sur le sample de Your Lucky Day in Hell. Du coup, j'arrêtais pas d'entendre cette musique, et je vous passerai un tout petit extrait pour que vous entendiez... là tout de suite je vais vous faire écouter quand même à quoi ça ressemble quand il y a un mec qui rappe en russe par-dessus la musique. Toi aussi tu l'aimais cette chanson, on est d'accord, Your Lucky Day in Hell, tu t'en souviens?
Oui, moi j'adorais cette chanson par rapport à Scream 2
On est d'accord qu'on l'écoutait avant qu'on écoute vraiment l'album Beautiful Freak, moi j'ai mis du temps à écouter l'album. Est-ce que tu l'écoutais pendant que j'étais en Russie?
L'album, cette chanson-là, spécifiquement, je ne sais pas du tout.
Non, justement.
Après l'album où je l'écoutais, oui.
Oui, mais est-ce que tu avais écouté avant d'écouter la chanson? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je me rappelle très bien cet album. Je l'ai écouté en vrai, en entier, quand je suis allée à Saint-Malo quelques jours toute seule en mai 99. Je l'ai écouté en boucle et c'est vraiment là que j'ai découvert. Jusqu'au-delà de Novocaine for the Soul, qui était le single, et Lucky Day in Hell. C'est là que j'ai découvert que ma chanson préférée sur l'album, c'est Not Ready Yet, mais ça, ce sera pour un autre jour. Un petit extrait de la chanson russe et on est reparti pour parler de télévision.
Смотришь в телеэкран из передачи новостей, ты узнаешь о том, кто был сегодня сильнее, кто стрелял только в спину, ну а кто только в лоб, и о том, кто хотел, но почему-то не смог. Ты почувствуешь боль, ты почувствуешь страх, ты узнаешь о том, что в мире что-то не так. И главная новость, как обычно, одна, это только 5 дней. Война.
Alors la semaine dernière, on n'a pas du tout parlé télévision parce qu'on n'avait rien regardé. Du coup, cette semaine, moi, je me suis forcée à regarder des trucs. Bon, en fait, c'était hyper fun de se remettre dedans, même si je n'ai pas regardé des trucs que j'ai adorés. Mais je vais commencer par te laisser parler d'un truc parce que toi, c'était des choses dont tu voulais déjà parler la semaine dernière. Alors, tu voulais parler notamment d'une série qui a été malheureusement annulée parce que nous deux, on l'aime beaucoup, qui est une série qui s'appelle Doubt.
Oui, Doubt. Doubt, c'est une série avec Catherine Hegel. Dulé Hill.
Donc Catherine Hegel, Grey's Anatomy, Dulé Hill, Psych! Et The West Wing.
The West Wing, oui, tout à fait. Et Laverne Cox.
Orange is the New Black, je suis en train de boire du café.
Mindy Project aussi.
Mindy Project, ah oui, 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 absolument, elle a joué dans Mindy Project.
Donc voilà, Doubt, donc c'est une série d'avocats, avec aussi Elliot Gould.
Absolument, non, ils ont un cast.
C'est un super cast, ouais, ouais. C'est hallucinant que ça ait été annulé.
Mais j'aime aussi la jeune nana. C'est, ils ont pas la jeune nana qui était dans The Bee in Apartment 23.
Qui est dans The Good Wife.
Qui fait les super ados insupportables dans The Good Wife, qui est absolument génial et tout. Cette fille. Enfin, comment il y avait qu'un cast? Bon, passons.
Sur CBS, donc voilà. Cette série est importante pour moi parce qu'elle parle de la première relation sentimentale comprenant une trans. Et j'ai pas le souvenir qu'à la télévision, enfin, d'avoir vu à la télévision. Une relation comprenant une trans, en fait.
Ouais, enfin,
une histoire d'amour, en plus.
Bah, il y en avait dans The L Word, quoi, par exemple.
Tu vois, mais c'est beaucoup plus orienté. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, là, c'est CBS.
Oui, non, je suis d'accord. C'est une grande chaîne.
C'est une grande chaîne. C'est,
Et puis, ils sont dans un univers assez normatif, en fait.
Et puis, en plus, elle est avocate.
Oui, c'est ça, on est dans un univers normatif, en fait.
Complètement. Et ce que je trouve intéressant, surtout, c'est que la personne, donc le mec, en fait, connaissait cette personne avant. Alors, elle était toujours un homme, en fait. Et puis après, il se revoit.
Techniquement, c'était déjà une femme, parce que... Voilà. En tout cas, avant qu'elle sorte du placard et qu'elle assume son identité trans...
Exactement.
Il la connaissait déjà.
Il la connaissait déjà.
Sous le nom de lui.
Et voilà. Et,
et que tous les amis qui sont activistes et qui trouvent que, enfin, qui peuvent nous donner des conseils sur un langage encore plus approprié que ce
ça
qu'on
serait
dit.
Super, parce que c'est pas toujours évident.
Et on est hyper hyper intéressés.
Donc en fait c'est super intéressant et je trouve ça. Je trouve ça génial que ce soit sur une grande chaîne comme ça. Le seul problème c'est que la série est annulée, mais ils ont continué à passer la suite des épisodes, donc il y en a 13.
Il y en a 13, ouais.
Il y en a 13, donc ça a été arrêté au bout du deuxième. Et là, il y a la suite qui passe pendant l'été où ils se débarrassent des épisodes qui restent, ce qui est bien parce que des fois, ils ne se débarrassent pas des épisodes.
Et du coup,
on ne voit jamais avoir la suite, c'est super frustrant. Et là, c'est un petit bonheur, quoi. Je crois que d'ailleurs, ça passe aux États-Unis, ça passe le dimanche soir, je crois. Non
où, c'est possible.
Je crois que c'est le week-end, en fait, en tout cas.
Mais c'est peut-être le samedi.
C'est peut-être le samedi soir.
Oui, ouais. C'est le samedi soir. C'est vraiment, alors vraiment le pire slot de la Terre. Ils les passent par deux en plus. Mais donc, effectivement, les deux derniers épisodes ont passé le 12 août.
Après, il y a plein d'autres choses qui sont aussi très bien dans la série. Hein, mais c'est ce critère qui m'a vraiment.
Moi, j'avais adoré le pilote. Et c'est rigolo parce que je posterai. Dans une émission du Nerdist Writers Panel, le podcast sur les scénaristes, il y avait quelqu'un récemment qui parlait des absurdités. Une femme qui parlait des absurdités, des choses qui sont gardées ou pas gardées et tout. Et elle a cité l'exemple de la série d'une amie à elle en disant « Oui, mon amie, elle a fait une série géniale, une série militante, un truc sublime qui était gérée au bout de deux épisodes. » Et en fait, plus elle décrit le truc, je fais « Oh !» Elle parle de Doubt. Et donc, il y avait quelque chose qui confirmait ce que je sentais sur la série. C'est qu'il y avait une intention d'auteur derrière. Et voilà. Et donc, moi aussi, je regrette amèrement. Mais j'espérais. Je l'avais gardé dans mon listing sous Excel de séries depuis février en espérant qu'ils allaient diffuser la suite. Parce qu'il y avait vraiment que deux épisodes.
J'avais effacé les deux épisodes. J'étais négative dès le début.
Ben, voilà. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va vous mettre des extraits, on va vous rappeler qui est l'auteur. Et voilà, c'est des gens à suivre, il faut continuer. C'était vraiment pour moi, en plus, la rédemption de Catherine Heigl. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, je l'aime plus, machin et tout ». Moi, je trouve que par rapport aux séries précédentes, celle-là, j'étais heureuse qu'elle en fasse partie. Il y a notamment un début, au tout début de l'épisode 3, elle donne rendez-vous à son client au Met, au musée. Mm-hmm. Pour parler, pour décrire un tableau, pour expliquer ce qu'elle ressent par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Et j'étais là, j'adore, c'est une série de nerds. Donc voilà. Donc Doubt. Tu voulais aussi nous parler d'une autre petite série dont personne n'a entendu parler.
Personne n'a entendu cette série. C'est Game of Thrones.
T'as tellement rigolé en disant le titre, je sais même pas si j'ai encore compris.
Game of Thrones. Vous savez là, oui.
Alors moi je vous dis, je me suis juste arrêtée à l'épisode 5 de la saison 5 et j'ai skippé tout pour regarder le premier de la 7, mais sinon je suis paumée, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais rien. C'est Marine la maison.
Ah, t'as regardé que la saison 5, je pensais que t'étais au début de la saison 6, moi.
Mais non.
Ok. Game of Thrones, j'avais un léger retard, de 1 à 2 semaines, ce qui n'est pas un vrai retard, on va dire. Pour l'épisode 2 et 3, Donc, je vais en parler sans spoiler, parce que bon, même si, ce que je disais à Yael, je pense que c'est une des séries que il y a plein de chances que vous l'ayez déjà vue, mais les gens n'aiment pas être spoilés justement sur cette série parce qu'elle est très regardée. Donc, j'aime beaucoup Game of Thrones pour plein de raisons, parce qu'il y a des super acteurs, etc. Mais ça me fait chier. C'est juste, c'est de la, ok, il y a la guerre, ok, ça c'est les deux dernières saisons, donc tu te demandes quelle est la personne qui va mourir dans cet épisode ou quoi que ce soit. C'est super violent. Je ne suis pas fan de la violence gratuite. Donc après, bon, c'est fantasy, enfin c'est aventure, c'est tout ce que tu veux, et puis c'est pas réaliste, du moins. Mais alors la revanche, là c'est deux saisons qui vont te parler que de revanche. Revanche.
Oui, c'est ça.
Revenge, non, c'est revanche. Revanche. Vengeance, merci. De vengeance.
Ça marche aussi. Tu sais que c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder, en fait. La raison pour laquelle. C'est... Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe aussi. On m'a raconté plein de trucs, mais quelque part, le quotidien de la violence, chaque épisode et tout.
Ah, mais le 2, c'est la guerre. Le 2, c'est. La guerre sur mer et avec. Du sang, blablabla. C'est. Tu t'attaches, en plus, tu t'attaches à certains acteurs, mais finalement, je me rends compte quand ça se passe, que quand la personne meurt, finalement, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, par contre, il y a certains personnages qui me tiennent vraiment à cœur, qui me font, je vais pas dire vibrer parce que ça reste Game of Thrones, faut pas abuser. C'est par exemple le personnage de Sam, qui est pas le sidekick de Jon Snow, mais un petit peu...
C'est un peu le Sam de... Mais il s'appelait Sam aussi, hein, Samwise. Le Sam de Frodo. Okay, moi, j'ai toujours fait le rapport avec le Seigneur des Anneaux.
Qui, lui, est dans une nouvelle situation dont je ne vais pas parler parce que...
Mais par contre, son introduction, donc moi, j'avais rien suivi. Et quand j'ai regardé le premier de la 7, son introduction était géniale.
J'ai trouvé ça génial.
C'était hyper bien fait. En plus, ils ont vraiment monté les trucs différemment par rapport à d'habitude. Les gens qui ont vu la scène vont comprendre. Les gens qui n'ont pas vu la scène... Ça vous donne envie de regarder au moins un bout de l'épisode 7, un de la 7. Oh, je sais même plus ce que je dis. Mais oui, en tout cas, Sam, effectivement.
Et en fait, dans la saison 2, bah, tu me fais dire n'importe quoi maintenant. Dans l'épisode 2,
sûr, c'est ta faute.
Dans l'épisode 2, on le voit moins, mais le peu qu'on en voit est assez important. Et par rapport à l'épisode 3, où en fait on le voit vraiment plus souvent, c'est super. Enfin, franchement, Sam, j'adore. Après, j'ai juste réalisé un truc. Après, je m'excuse pour les fans de Jon Snow, mais je trouve que Kit Harington, enfin Jon Snow, a toujours l'air d'être constipé. Et ça me saoule. Il a toujours la même tronche. J'aime beaucoup Jon Snow, j'aime beaucoup son personnage.
Et t'aimes beaucoup Kit Harington aussi.
Oui, j'aime beaucoup Kit Harington, même si je l'ai pas vu dans beaucoup de films bien à côté, mais c'est pas grave. Parce que franchement, Pompéi...
Non, mais par contre, il faut voir le truc avec Andy Samberg sur le tennis. Il faut qu'on le rechoppe un jour, le truc pour HBO. Mais non, moi, ce que j'aime de chez Kit Harington, c'est qu'il est vraiment maqué avec...
Oui, ça c'est bien.
Parce que je n'aime que les histoires de cul des célébrités.
Oui. Pardon. Je confirme. En même temps, moi aussi.
Bon, donc, toujours est-il qu'il a toujours la
conscience. Non, ils sont installés ensemble. Je ne sais pas chez qui chez Jimmy Fallon. Il était soit chez Jimmy Fallon, je crois, parce qu'il n'y a que Jimmy Fallon pour dire ça. Ou je ne sais plus, enfin peu importe. Ou l'autre, comment il s'appelle? T'as Jimmy Fallon et.
Seth Meyers?
Non.
James Corden?
Non.
Jimmy Kimmel?
Kimmel. Kimmel, non, c'est plus dans le sens de Fallon. Et en fait, il lui parlait du fait. Ou c'est peut-être Hélène, peu importe.
Je rêve! Oh, les cloches sonnent à nouveau! Bon. Mais il faut quitter. Pardon, passons.
C'est peut-être Hélène qui parle du fait qu'il serait peut-être temps de la demander en mariage, quoi. Et l'autre, genre, mais attends, on s'installe juste ensemble, quoi, c'est bon, genre. Mais très, très justement, enfin, genre pas.
Je pense qu'il faut faire un podcast spécial juste qui couche avec qui, oh, et pourquoi on est content ou pas content.
Ah, mais c'est comme le site où c'était qu'un. Who's dating who?
Ah, je vais toujours sur ce site.
Il existe encore?
Mais bien sûr.
Ah bon?
Who's dated who? Mais il est pas super toujours bien mis à jour.
Je suis tout à fait d'accord. Puis des fois, c'est un peu.
J'avais dit que cette semaine, on faisait court. Oui. Là, on est en train de se perdre sur Kit Harington. En gros, il a l'air constipé, je suis assez d'accord avec toi. Autre chose à dire sur Game of Thrones ou on peut passer à la suite?
Non, on peut passer à la suite, c'est bon.
Donc, alors moi. Donc, oh, putain, les cloches. J'ai l'impression que j'ai la parole sacrée, que j'ai eu de la messe. Alors, moi, mais en même temps, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Nous, c'est notre messe de pop culture.
Ouais, c'est, ça me prouve qu'on c'est est bien dimanche et qu'on n'a pas menti.
Oui, aussi. Alors, du coup, moi, j'ai regardé des pilotes parce que j'en avais marre d'avoir 250 pilotes qui bloquaient mon ordi et aussi parce que à cause de la façon dont je suis, ce que je regarde et ce que je regarde pas, tant que j'ai pas regardé un pilote, ça bloque un peu mon système de comptage d'épisodes que j'ai en retard. Oui, je sais, je suis folle. Donc j'ai regardé des pilotes. Alors, j'ai commencé, je vais pas vous le dire dans l'ordre, je vais vous le dire dans l'ordre de mauvais pilote à bon pilote. Bon, déjà, j'ai abandonné de regarder The Miss Salvation, White Gold et Somewhere Between parce que j'avais pas envie ou j'avais. C'était un truc inspiré de. En plus, non, c'est toi qui m'as dit, Marine, tu m'as dit. Ouais, je te file pas les trucs que je télécharge pour Cody, parce que, une amie à nous, parce que c'est tous les trucs d'horreur, Stephen King, machin, et tu m'as donné certains titres, et j'ai fait, alors du coup, ceux-là, je veux pas les voir. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai demandé à Twitter de me dire s'il fallait, ça valait le coup de les regarder quand même, et les réponses, pour l'instant, ne m'ont pas du tout convaincue de les regarder. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont bien voulu me répondre. Du coup, j'en ai regardé d'autres. Alors, le pire de tout, c'était Will, qui est le truc de TNT sur la vie de William Shakespeare. Alors, c'est rigolo parce que quand Rain a commencé sur la CW, je me suis dit, il y a un filon sur ces trucs historiques qui sont faits de façon moderne, où c'est inspiré, les fringues notamment sont inspirées de trucs de l'époque, mais clairement sont des trucs de notre époque à nous, la musique est moderne et tout. Et je trouvais ça assez fascinant dans Rain. Et d'ailleurs, j'ai quand même beaucoup aimé les 15 premiers épisodes que j'ai regardés de cette série. Alors là, Will, c'est ça, mais on a pris trop de LSD et c'est insupportable. Plus lui, le mec qui joue Will, c'est une tête à claque absolue. Alors ils ont voulu mettre des trucs de religion, des trucs de guerre de religion, ce qui est effectivement, moi en tant que fanatique de l'histoire d'Angleterre de cette époque, je suis assez d'accord que c'était clairement central, notamment dans la vie de Shakespeare, enfin, ce qu'on en sait en tout cas, ou ce qu'on en suppose. Il y a Philippe Marlowe, il y a plein de trucs qui sont là, mais c'est juste chiant à regarder, c'est moche, le personnage féminin a l'air intéressant, mais pff, non. Alors si vraiment ça devient génial, quelqu'un m'envoie un texto, et voilà, mais pour l'instant j'ai détesté.
Moi j'avais vu la photo et j'avais déjà vu la tête du mec et j'avais genre... Oh.
Oui, c'est vrai que le mec,
il a l'air...
Comment il s'appelle, le mec qui joue dans Valériane? Enfin, en gros,
je sais plus l'un nom.
Oui, enfin, on s'en fout.
C'est compliqué.
Alors après, j'ai regardé Blood Drive. Alors, je peux imaginer qu'il y a un délire à faire sur Blood Drive. Effectivement, j'ai raconté des bouts du pilote à Marine et à Thibaut. Et j'aurais fait... Thibaut, il a été bloqué pendant 5 minutes avec l'œil. Oui, c'est ça. Donc, la scène de cul à la fin du premier épisode de Blood Drive m'a vraiment, vraiment dégoûtée. Alors, dégoûtée dans le sens de la série, hein, pas de l'acte sexuel. Je tiens à le dire, c'était pas si épouvantable que ça. Mais en fait, j'ai regardé les 10 premières minutes, puis j'ai fait avance rapide, et puis j'ai regardé la fin et j'ai fait OK, non. J'ai quand même téléchargé l'épisode 8, juste pour voir comment ça évoluait. Je pense qu'il y a un vrai bonheur d'amour de films de série Z à regarder cette série. Elle est faite dans cet esprit-là. Donc je pense pas que c'est mal fait ni quoi que ce soit. C'est juste que vu que en gros c'est l'histoire, donc c'est du fantastico gore, on va dire, volontairement. Et chaque épisode est plus ou moins un hommage à un style de cinéma de genre de série Z, notamment des années 60-70. Et enfin le principe des grindhouse movies en fait, donc un peu comme l'idée du boulevard de la mort de Quentin Tarantino. Et surtout de Planète, je sais pas quoi, qui était le truc de Rodriguez qu'il avait fait en même temps. Et qui, voilà, donc allez sur le site pour avoir plus de détails. Et ouais, je pense que ça peut être très fun à regarder, mais moi, trop de violence, trop de sang, non. J'ai pas envie de regarder. Je vous raconte du coup pas l'histoire, comme ça vous pourrez en profiter largement si vous décidez de vous faire plaisir. Je sais qu'il y a des gens sur mon fil Twitter qui prennent leur pied à regarder ça, donc ça peut apporter beaucoup de plaisir, je pense, quand on est dans un certain état d'esprit, mais ce n'est pas le mien. Après, j'ai vu I'm Sorry, qui est une comédie avec Andrea Savage, qu'on a vu dans plein de séries, qui est sur l'histoire d'une nana qui écrit de la comédie et qui habite à Los Angeles et qui, en gros, doit essayer de vivre sa vie d'épouse et de mère de famille avec une petite fille en ayant le cerveau d'une comique qui passe son temps à vouloir faire les blagues les plus inappropriées de la Terre. En gros, c'est ça le concept. C'était pas mal. Je me suis un peu fait chier au début. La deuxième partie du pilote était vraiment meilleure parce qu'il y a vraiment un retournement de situation sur son approche des choses, mais pas assez pour que j'ai envie de regarder la suite. Donc voilà, I'm sorry, c'est du typique comédie du câble, c'est-à-dire c'est un peu lent, les blagues sont pas haha funny, voilà, bon. Mais en même temps, c'est elle qui l'a créé et je suis contente qu'il y ait une nana qui crée sa série. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, après j'ai regardé Ackley Bridge que tu m'as conseillé, Marine, qui est une série anglaise.
J'ai pas regardé, mais.
Qui se passe dans un lycée qui, où ils ont forcé à intégrer ensemble deux communautés, une d'origine pakistanaise et une britannique pauvre, très blanche. Et au lieu d'avoir deux lycées, ils décident d'avoir un seul lycée parce que c'est une ville qui est économiquement complètement perdue et qui pense que c'est la meilleure chance de donner aux gamins, c'est justement de changer la donne. Et à la fois, il se passe tout ce qu'on imagine qui pourrait se passer dans ce genre de situation, et à la fois, c'est pas du tout fait de façon cliché, c'est très bien écrit, c'est très bien joué. J'ai très envie de regarder la suite, il y a que 6 épisodes, donc je vais me faire un plaisir de regarder ça. C'est. Bah, y a un truc en plus sur la réalité anglaise, quoi. Enfin, l'Angleterre, c'est un pays qui est à la fois très très riche et qui à la fois qui a une énorme problématique de population défavorisée, et je trouve ça. Et leurs séries savent en parler. Hein, la France, ce serait bien de faire pareil. Donc voilà, donc Ackley Bridge et mon coup de cœur, c'est I'm Dying Up Here. Donc Caroline, ma chère Caroline, m'avait parlé, elle m'avait dit de le regarder et j'ai. Et en fait, j'ai. Mais elle m'a dit de le regarder, j'avais enregistré l'information comme oui, c'est intéressant, c'est pas mal et tout. Oh alors, c'est en fait, donc ça se passe dans le milieu des comiques, des stand-up comiques de la fin des années 70, il me semble. En tout cas, voilà, leur fringue ressemble aux 70s, mais ça veut peut-être dire que c'est le début des années 80. Parce que... Et c'est une bande de comiques qui essayent de faire leur carrière. Et là, dans le un bar en particulier où ils vont, et avec aussi un des personnages principaux, c'est la patronne du bar qui décide qui passe sur quelle scène et comment, et surtout avec l'idée que elle a un lien, et c'est vraiment vraiment comme ça que ça se passait, un lien privilégié avec Johnny Carson, qui est le présentateur de Late Night, le plus grand présentateur de Late Night de l'histoire américaine, et qui faisait venir beaucoup de comiques et notamment de nouveaux stand-up. Et un des trucs. Et c'est vraiment, il y a tout dans le pilote, il y a tout un truc autour de ça qui est que quand tu passais à Johnny Carson, le signe d'être couronné par Johnny Carson, c'est si après ton set, il te demandait de venir t'asseoir à côté de lui sur le canapé.
Ouais.
Et donc ça s'appelait Getting the Couch. Ah. Et je sais que c'est vrai, enfin je sais que c'est vrai, je sais que c'est authentique parce que Hélène DeGeneres en parle beaucoup, parce que c'est ce qui lui est arrivé. Elle est passée chez Johnny Carson et à la fin de son set, il lui a dit. Why don't you come here on the couch? Et dans des documentaires que j'ai vus sur elle et tout, elle expliquait que c'était un moment de consécration de sa carrière.
De passer sur le couch, ok.
De passer sur le couch. Et c'est tout dedans. Et dans le pilote, il y a tout ça. Il y a tout. Cette idée-là est dedans. Et il y a tout un tas d'autres choses qui sont très proches de la réalité de l'époque, qui est une époque où les comiques, en plus d'essayer de faire carrière, bah, ils picolaient, ils prenaient de la drogue. on était. C'était pas du tout aussi policier que ça l'est aujourd'hui, même si ça l'est pas encore tant que ça. C'est une série produite par Jim Carrey. Ça s'appelle I'm Dying Up Here, puisque c'est vraiment je suis en train de mourir là-haut, dans le sens sur scène. Et en fait, c'est pour moi ce que Vinyl n'a pas réussi à faire. Vinyl a voulu parler de la musique de New York des années 70, de l'industrie. Sauf qu'il y avait, en gros, une bande de mecs blancs torturés. Ah non, mais c'est trop dur de devoir faire de la musique. Et du coup, je dois prendre de la drogue au lieu de rentrer chez moi et m'occuper de ma femme et de mes enfants. Il y avait un peu ce côté-là dans le pilote. J'ai vu que le pilote. Alors que là, bah, il se trouve que dans les personnages principaux, il y a des femmes. Il y a un black.
Et puis, ils ont des postes importants.
Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine juive et pour qui tu sens que ça joue un truc par rapport à leur histoire. Ouais, il y a tout un truc et ça parle de ça. Ça parle de la fait que la comique, elle qui est censée, qui est clairement un des personnages principaux, voire le personnage principal de la série, que en gros elle au milieu de son set, il y a toujours un mec pour lui dire monte-nous tes seins, viens ici ma chérie, sucez ma bite et compagnie. Et comment elle peut répondre à ça et avec justement la boss qui lui dit non mais voilà le problème c'est que t'as pas encore ça et puis en plus t'es sexy alors du coup. C'est compliqué parce que les mecs écoutent pas tes blagues. Regarde que tes seins étaient là. Mais c'est vachement bien fait. Et franchement, moi j'ai vu 2 épisodes de suite et j'étais là. Ah, trop bon. Donc voilà, le coup de cœur. I'm Dying Up Here. Je vais en parler plus longuement quand j'aurai fini la saison. J'espère que tu vas regarder, Marine.
Oui.
Pour la télévision, c'est bien, mais cette année, on a décidé de se cultiver aussi par la lecture. Et donc, Marine, toi, tu as lu cette semaine. Qu'est-ce que tu as lu ?
Eh bien, j'ai suivi ton conseil de la semaine dernière, vu que tu parlais de la BD Saga. Et donc, je m'y suis mis, tout simplement, parce que ça m'a... Vu la façon dont tu as mangé, on va dire, les BD, quoi.
Les quelques volumes, parce qu'il m'en manque plein.
Justement... Ne spoil pas ce que je vais te dire, s'il te plaît. Donc, effectivement, tu n'as que 4 volumes. Donc, j'ai lu 3 volumes et je me suis forcée à arrêter parce que vu qu'elle n'a pas le 5, c'est tellement prenant. Je m'y suis mis quand ? C'était en un après-midi. J'ai lu exactement 2 volumes et demi, en fait. Comme ça, quoi. C'est passionnant. C'est passionnant et tu parlais que ça parle d'amour. Ça parle effectivement d'amour. C'est toutes ces différentes races extraterrestres.
Mais c'est ça, l'univers.
C'est génial, c'est drôle. C'est smart, c'est vraiment intelligent.
C'est hyper touchant aussi.
Et c'est
moi, j'ai la larme aux yeux au moins 8 fois.
Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est. Ah non, oui. Tout à fait. Mais il faut pas que j'en parle trop. Parce que sinon, je vais vous laisser et je vais aller lire le 4. Donc. Non, il faut que... Non, c'est juste super. Je suis... Donc, les conseils de Yaël de la semaine dernière, c'était super.
Je confirme. Moi aussi, je voulais lire et je n'ai pas eu l'occasion. Je voulais lire On ne naît pas grosse, dont tu as parlé la semaine dernière. Je l'ai montré à notre amie Marie. Elle a feuilleté, elle a lu un bout de page au milieu et elle l'a refermé en faisant « Oh !» et elle avait un regard genre « Waouh, c'est très... » C'est rude mais touchant. Et j'étais là, oh, faut que je le lise. Mais j'avais pas le temps parce que je voulais commencer un autre livre. Donc moi voilà, j'ai rien fini. J'ai fini le volume 4 de Saga. J'ai essayé de m'en empêcher, j'ai pas réussi. Et donc la grande question maintenant, c'est est-ce qu'on achète le deuxième hardcover, donc qui sera du chapitre 19 au 36. Donc techniquement, on a déjà les 6 premiers dans le volume 4. Mais du coup, on aura un beau livre pour avoir jusqu'au chapitre 36.
Moi, j'ai déjà regardé, je suis allée sur Amazon, j'ai regardé tous les prix des trucs. J'ai fait les calculs, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre, ça ou ça?
Donc il y a ça, ou alors on achète 5, 6, 7. Donc voilà, on va... Non, 8 n'est pas encore sorti, tu déconnes, ils viennent de sortir le oui, mais c'est en pré-truc. Ils viennent de sortir, chapitre 44 seulement. Donc c'est 18 par 6
enfin. Oui,
oui. Oui, oui, on fait des grands calculs savants. Mais en gros, voilà. Et quand je dis que pensent que les gens, t'imagines, ce qu'on a lu là en une journée, c'est sorti sur un an et demi, 2 ans. Ouais. Donc bon. Alors donc Saga, on va continuer à en parler. Mais donc voilà, moi je voulais commencer un autre bouquin. Je voulais commencer un bouquin que je me suis acheté il y a plusieurs semaines. Il faut dire que ça fait un an que j'achète et je me fais offrir des tonnes de livres. Donc là, j'ai vraiment une grande étagère de trucs à lire. Et un des trucs que je me suis acheté récemment, c'est les mémoires de Carrie Brownstein, qui est la guitariste de Sleater-Kinney, mais aussi la co-créatrice de la série Portlandia. Et elle a bossé pour All Things Considered, enfin NPR Music, qui est le pôle musical de NPR, la radio publique américaine. Elle est absolument fabuleuse et elle a écrit ce truc il y a un an et demi, 2 ans. Et j'avais entendu en parler dans une émission, je pense, Daily Show probablement. Et ça m'avait vachement donné envie de le lire. Et là, je l'ai commencé. Et ça s'appelle Hunger Makes Me a Modern Girl. Et je vous... Il y a tout un truc au début où elle explique qu'avant toute chose, elle a été une fan. Et elle décrit quelque chose sur ce que c'est que d'être fan. Elle écrit « This is what it is to be a fan. Curious, open, desiring for connection. To feel like art has chosen you, claimed you as its witness. » Donc c'est ça ce que c'est que d'être fan, être curieux, être ouvert, être à la recherche d'une connexion, avoir l'impression que l'art vous a choisi vous, vous a appelé comme son témoin.
C'est très... oui.
C'est très juste, c'est très beau et ça donne, et enfin, ça montre aussi qu'elle écrit magnifiquement bien. Donc voilà, j'en n'en suis qu'au début, mais je vais me faire un plaisir de continuer à la lire. Et j'ai aussi reçu... 4 bouquins de Roxane Gay que j'ai achetés, donc celui dont je parlais la semaine dernière, Hunger, mais aussi un recueil d'essais qui s'appelle Bad Feminist, franchement ça donne grave envie de le lire, son premier roman, et aussi elle a écrit le spin-off de comics Black Panther dirigé par Ta-Nehisi Coates, donc la dernière version du titre, qui s'appelle The World of Wakanda, qui parle des femmes dans l'univers de Black Panther. Le comic s'est arrêté entre-temps, mais j'ai quand même très très envie de le lire. Donc voilà, donc ça c'est les lectures à venir, en plus des 250 autres bouquins qui sont sur mes étagères et que j'ai envie de lire.
Surtout que moi, ça me donne envie de lire aussi tous les bouquins qu'elle amène. J'ai aussi des bouquins à lire, donc elle en rajoute plein. C'est bien que ça les laisserait dans les toilettes.
Oui, quand je commence à trouver un truc sympa, je le fous dans les toilettes. Comme ça, ça je me dis que ça va inspirer Thibaut et Marine de les feuilleter et peut-être d'avoir envie de les lire aussi. Et que s'ils les lisent, ils vont me donner envie de vraiment les lire. Et du coup, oui, c'est une espèce de stratégie. Et d'ailleurs, il y en a un récemment que tu as kidnappé des toilettes et que tu as emmené avec toi dans
oui,
ta chambre.
Oui, celui de l'esclavage raconté à ma fille par Taubira.
Ouais, Christiane Taubira, un bouquin qui m'a été offert par une de mes meilleures amies, Nicole, pour qui c'est un de ses bouquins préférés.
Mm-hmm. Et qui faut que chevet, je baisse. Oui, c'est ce qu'elle disait, c'est son livre de chevet.
Il faut que je le finisse par le lire. C'est bon pour les livres ?
Oui.
On passe au cinéma ? Alors, on a vu 3 films au cinéma, et moi, au cinéma, je ne sais jamais si je veux dire ciné ou cinéma. Ciné, ça me fait penser à quand j'avais 15 ans. Mais 3 au cinéma, et un que j'ai regardé sur grand écran à la maison. Alors, c'est rigolo, parce que les 3 films qu'on a vus au cinéma, le seul qu'on a vraiment... On avait vraiment, vraiment, vraiment envie de voir. C'était celui qu'on avait déjà vu, qui était le dernier. Donc, on a commencé quand même par... En fait, c'est bien, ça va crescendo le niveau des films qu'on a vus au ciné.
Effectivement.
Alors, le premier qu'on a vu, bien qu'aucun des films ne soit mauvais, c'est juste que c'est plus en termes d'appréciation.
Le premier, on n'a pas choisi, c'était le
voilà,
Sneak Peek.
Voilà, le premier, on est retourné au Sneak Peek mardi soir. Et donc, alors, on était là, ça se trouve, on va voir Dalida. Il y a un documentaire, non, une fiction sur Dalida.
Ouais, qui...
On s'est posé plein de questions et en fait le truc a commencé et franchement c'était aucun des films qu'on imaginait que ça puisse être, mais il y avait un acteur très connu dedans, donc ce qui fait que j'ai tout de suite compris au moins de qui il s'agissait, mais je voyais pas du tout quel film c'était. Et c'était un film qui s'appelle Trespass Against Us avec Michael Fassbender et comment il s'appelle le...
Oh, je sais plus, il est...
Gleeson something.
Oui, Gleeson, oui.
Ou Donald Gleeson, est-ce que c'est le mec de About Time qui fait le nazi dans Star Wars?
Non, ah oui, le nom, tu parles, parce que je dis, c'est pas celui qui joue dans le film. Hein. Genre, non, il est roux, mais.
Oui, non. Non. Bon, je sais plus comment il s'appelle, regardez, c'est Brendan Gleeson peut-être qu'il s'appelle. Bon, regardons, ça se trouve, ils sont père et fils. Tout sera dans le site, dans le post sur le site. Donc, oui, Trespass Against Us, Marine.
Le seul point positif du film, c'est Michael Fassbender, parce que c'est juste agréable de le voir à l'écran et de. En plus, il joue le rôle d'un père, donc. C'est très touchant, même si c'est un peu quand même un raté. Et puis c'est le sujet en lui-même, je le trouve chiant en fait.
Bon, donc, c'est pas du tout un mauvais film en
non,
fait.
Non, c'est pas un mauvais film, c'est juste
qu'on en a rien à battre, mais grave. En gros, c'est l'histoire. Vous voyez, si vous avez vu Snatch, tout. En fait, c'est un film sur le personnage de Brad Pitt dans Snatch. Donc en gros, c'est une communauté de petits malfrats.
Qui parle un peu mieux quand même.
Oui, enfin,
qui
parle ouais, et encore, moi, la moitié du temps, je captais que ce qu'il disait. J'étais là, mais merde, je comprends rien. Je me suis retrouvée quand même la moitié du film à lire les sous-titres en allemand. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il vient de dire ?
Ouais, les accents.
Et donc, c'est une communauté de petits malfrats qui a un campement avec 3 caravanes, 5 voitures brûlées et 12 chiens dans un bled paumé et qui sont connus comme étant la famille qui fait tous les crimes du coin. Du coup, il y a une espèce de truc, tu dis, mais ils sont vraiment cons.
Et les flics les recherchent toujours un peu. Fin...
Ils les connaissent et donc c'est l'histoire de lui qui est le fils du patriarche, qui est le chef de clan, entre guillemets. Et qui, parce que ça fonctionne vraiment comme un clan.
Qui est marié avec 2 enfants.
Et qui est marié avec 2 enfants et qui est plutôt sympathique comme personnage, mais son père est vraiment détestable. Et du coup, pendant tout le truc, t'es là, mais tue-le. et puis en plus, tu sens que tout le monde va faire des conneries et tout le monde est. Toutes les 5 secondes, tu crois que quelqu'un va se faire tuer à cause d'une connerie que quelqu'un d'autre a fait. Je déteste ce genre de film en fait. Et vraiment, je parle de détester dans le sens de pas du tout avoir envie de passer du temps avec, pas de le mépriser d'un point de vue artistique. C'est juste que, quelque part, là aussi, la réalité, une forme de réalité sociale anglaise m'intéresse, mais quand je regarde ça... Surtout que j'ai pas trouvé que c'était... À part le fait que le mec même soit plutôt sympathique avec sa femme et ses enfants,
oui.
Ce qui est surprenant, tu vois, il ne picole pas, il les tabasse pas la nuit, ce qui est généralement ce à quoi on pourrait s'attendre. J'ai pas trouvé vraiment que c'était surprenant psychologiquement, que ça me disait quelque chose que j'attendais pas sur quelque chose. Enfin, tu vois, c'est. Puis la fin est une espèce de pirouette qui était assez rigolote à regarder, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Enfin, tu vois, c'est. C'est très vain tout ça. C'est... Alors par contre, je comprends complètement Michael Fassbender d'avoir eu envie de jouer ce rôle entre l'accent, la corpo, la... le physicality, comme on dit, la... le travail corporel par rapport à ce personnage, par rapport au truc. Je pense que c'était hyper excitant en tant qu'acteur, mm-hmm. mais pas vraiment excitant en tant que spectateur.
Non, non, je dis, heureusement, c'est... heureusement qu'il était dedans parce qu'il a apporté.
Mais voilà, mais bon, tu vois, ça, c'est
visuel, agréable.
Nous, ça nous a fait chier. Je suis sûre que ça va passionner plein de gens. Donc voilà, c'était le premier. Et ensuite, on a décidé d'aller voir le grand film qu'il fallait voir de l'été. Surtout parce que Thibaut était très, très excité depuis très longtemps à l'idée de l'existence de ce film. Et c'était Dunkerque.
Dunkerque.
Dunkerque. Marine, Dunkerque.
Dunkerque, ben, c'est un beau film. Hein. Ça parle de choses historiques importantes et c'est bien d'en parler, quoi. Des bons acteurs, c'est une belle cinématographie, quoi, c'est bien. Mais j'ai un truc, j'aime pas les films de guerre. Et puis, ça me saoule. C'est juste que ça me transporte pas, c'est... Pff, non.
Oui, je suis un peu d'accord. Alors, en fait, c'est rigolo parce que à force de... Parce que j'aime pas... Alors, attention, moi, j'adore Full Metal Jacket. J'en parle tout le temps, à chaque fois.
Je suis tout à fait d'accord avec
ça. La dernière fois que je t'ai dit que je dis oui, moi, j'aime pas les films de guerre, sauf... Et Marine, avant même que je me dise, elle dit Full Metal Jacket, parce que je l'ai dit à chaque fois. Donc oui, Full Metal Jacket de Kubrick.
Ce qui est logique, en même temps, parce que c'est un excellent film.
Oui, et puis c'est un film qui a un réel film sur l'absurdité de la guerre.
Oui, puis il y a un côté très humain dans le film.
Dans Dunkerque, il y a un problème où tu dis... Donc, en fait, du coup, à force de pas aimer à cause du genre, j'ai tendance à lui donner trop de crédit, en fait. À dire, non, mais c'est un super bon film, mais moi, j'aime pas, machin.
Non, c'est poussé à aller le voir quand même, tu vois.
Ah, mais on l'a vu, et puis je suis contente d'avoir vu ça.
On n'est pas des fans de Nolan.
Non, mais surtout, c'est pas seulement ça, c'est putain, t'imagines ça sur un écran d'ordinateur, mais comment j'aurais appuyé sur pause au bout de 30 secondes, quoi. Si j'étais pas coincée dans la pièce. Déjà, j'ai essayé de tricoter pendant tout le film, mais.
Par contre, le problème, c'est qu'il faut être. Faut bien regarder le film dès le début, parce que sinon, tu manques une ou deux informations. Et t'es un petit peu paumé. Après, tu comprends plus à la fin, mais il faut vraiment suivre le début.
J'ai entendu beaucoup de gens étaient paumés quand même. Tu vois, c'est un peu le truc d'Inception où les gens disent « Ah, faut que je le revoie pour tout comprendre. »
C'est le truc de Nolan.
Oui, non, mais c'est « Faut que je le revoie pour tout comprendre. » Et en fait, tu dis « Non, mais en fait, non. » Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre parce que c'est juste, ça n'a pas de sens. Mais d'ailleurs, même Dark Knight Rises, que j'adore son troisième Batman, il y a des sauts logiques complètement hallucinants. Comment il est rentré dans la ville ? Comment il est pas... Comment il est enfin sorti à pied de son trou paumé dans le désert pour retourner à Gotham ? Sans argent, sans ressources, sans rien. Never mind. Bon, Marc, c'est un beau gosse. J'imagine qu'il a dû séduire...
C'est un truc. Comment il est arrivé à sortir ? On a regardé un truc. Ah bah, c'est le prochain truc dont on va parler à la fin. Le truc que t'as vu, genre, mais comment il est... comment il est monté en haut de la tour ?
Donc, tu nous dis que Dunkerque, voilà, on va pas dire du mal parce que c'est très beau. Alors, enfin, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est important à notre époque de faire un film sur la guerre qui montre à quel point la guerre, c'est terrifiant, c'est violent, c'est vain. Comment le fait de tuer des gens pour une conquête territoriale ou politique n'a aucun sens. Voilà. Après, c'est hyper bizarre parce qu'à la fois le film montre ça et en même temps t'as des espèces de moments d'héroïsme, tu vois, où quand même des hommes apprécient que d'autres hommes soient quand même des grands hommes. Et donc du coup t'es là, bon, alors du coup c'est quoi ton point, quoi ? C'est absurde ou c'est pas absurde ? Je pense que Full Metal Jacket ne fait pas. Et j'ai beau bien aimer Jarvis de Agent Carter et Kenneth Branagh. Leur interaction est un peu contre-productive par rapport au reste de l'interaction du film, quoi. Pareil, le mec sur son bateau... bon, après, il y a quelque chose dans le petit mec normal sur son bateau, il y a un peu quelque chose sur le fait qu'il a voulu faire l'héroïque et en fait, il a perdu la vie. Enfin, il a fait perdre la vie à un gamin. Enfin, tu vois, il y a...
Tout à fait.
C'est pas très... Donc, avec un peu de recul, ça a l'air vain aussi, mais le film ne le présente pas comme quelque chose de vain. Après, moi, ce que je tire de ce film, c'est aussi la leçon que... Des fois, ce qui compte, c'est comment l'histoire est racontée. Et que ces soldats qui, eux, se sentent nuls et se sentent coupables d'avoir perdu et battu en retraite sont vus comme des participants à un miracle. Et que du coup, c'est ça qui a donné la force au pays de continuer à résister. Et c'est pour ça, probablement, qu'on a finalement vaincu les nazis dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quelque chose là-dessus, sur comment on parle des choses, c'est important. Quel que soit le... Il n'y a pas de réalité objective, donc il faut faire attention à la réalité qu'on dépeint, sachant que c'est aussi ça, la propagande, donc il faut réfléchir à ces questions-là.
Je suis d'accord.
Après, l'autre truc qui nous a saoulés dans le film...
C'est qu'il n'y a pas de nana.
Il y a aucune
en
nana.
En fait, il y a un moment donné.
Tu vois une nana passer,
tu vois une
sur,
nana
un bateau.
Passer sur un bateau qui est habillée en civil, en fait.
Qui n'est pas une
infirmière.
Qui fait des tartines.
Qui fait des tartines avec de la confiture. Donc, c'est, tu fais genre. Et j'ai fait genre. Oh, une femme, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Certes, c'est la guerre. Certes, c'est les hommes qui sont envoyés au front. Mais les femmes étaient présentes. Bah. Et la meilleure preuve par rapport à ça, c'est le film dont on a parlé la semaine dernière, qui est
Their Finest,
qui parle de la même période mais historique.
On n'a pas parlé du fait qu'on a parlé de Their Finest, que le film qu'ils sont en train de faire pendant l'intégralité du film, et le film dans le film, c'est un film qui s'appelle The Nancy Something, et qui est l'histoire de, donc tiré d'un fait divers, donc dans l'histoire du film, ce qui d'ailleurs s'avère être un faux fait divers, sur deux jumelles qui ont volé le bateau de leur père pour partir à Dunkerque sauver des soldats.
Voilà.
Et donc dans l'histoire, dans The Finest, on découvre que les deux jeunes femmes, malheureusement, ont été arrêtées parce qu'elles avaient un problème de moteur, et que vu que quelqu'un les a vues quand même revenir au port avec quelques soldats dans leur bateau, ont imaginé qu'elles avaient sauvé des gens et que ça a créé effet boule de neige. Du coup, ils décident quand même de créer un film là-dessus,
ouais,
sur ces deux jeunes femmes qui partent à la rescousse de soldats. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça que ça devient un film important pour la propagande, parce que justement, on montre que les femmes sont impliquées. Et donc, tout le sujet de Their Finest, c'était vraiment, mais exactement sur Dunkerque, mais sur l'idée de, c'est important d'inclure des femmes dans l'histoire. Et Nolan, en 2017, non.
Ben non.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... c'est terrible, parce que ça nous convainc, nous autres femmes, que nous n'avons pas notre place dans ce genre d'histoire.
Non, tout à fait. Mais même sur le bateau, ils auraient pu mettre, pas le fils, mais la fille.
Oui,
et le George, c'est le qui reste George, tu vois, mais...
Oui, ça aurait pu être un autre bateau. Enfin, non, mais bien sûr.
Sauver une infirmière aussi, peut-être.
Oui, non, mais il y a des tonnes de choses. Et c'est vrai que... Et je te dis, c'est vrai que cette idée... Ce truc de dire, oui, c'est vrai, les infirmières qui coulent, elles, par contre,
ne sont pas capables de sortir du bateau.
Non, mais... Tu sais,
on les voit jamais sauter du bateau. C'est que les mecs, quoi. Les nanas, bah non. C'est des nanas, quoi. Donc...
Mais c'est vrai qu'il y a un côté très... de dépeindre un monde comme ça en disant bah oui, mais en même temps c'est logique, c'était la guerre, il y avait pas d'hommes, mais du coup ça convainc que et d'ailleurs dans la on le dira pas, mais à la fin de Their Finest, il y a un truc par rapport à l'influence du film sur certaines personnes, et franchement regardez ce film Trouc, dès qu'il sort en DVD,
oui, parce que c'est, ça sort pas en France, hein, c'est ça,
non mais
ça
attends pas, mais DVD, bon,
ça sort sur Netflix, voilà. Oui, je pense.
Bon, en tout cas voilà, donc Dunkerque, donc voilà, oui c'est bien fait, c'est mais finalement le toute cette artisterie visuelle, j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose derrière de plus fort. Et je trouve que plus tu essaies de réfléchir à ce que ça dit, plus tu te rends compte que ça tombe en morceaux, quoi.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc Dunkerque, non. Alors après, moi, j'ai regardé Star Trek Beyond, le dernier, avec Thibaut, un soir sur grand écran. Parce qu'on s'est dit pourquoi pas, je l'avais pas vu et tout. Et qu'est-ce que je me suis fait chier. Bon, je me suis fait chier. Et puis surtout, c'est le genre de truc, j'arrêtais pas de perdre le fil de ce qui se passait. Et pourtant, entre-temps, en plus, je suis follement amoureuse de Chris Pine grâce à Wonder Woman. J'ai plein de raisons de. J'aime bien plein d'acteurs. J'adore Simon Pegg, j'adore le fait qu'il y ait une nana toute seule qui essaye de s'en sortir et qui a appris l'anglais et qui écoute du rap et du rock et tout, machin. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Mais en réalité, j'arrête pas de décrocher du film tout le temps, quoi. C'est quand même un problème. Et effectivement, à un moment, t'as le méchant qui se trouve tout d'un coup en haut d'une tour, on ne sait pas comment.
Tu le vois en bas, en train de courir, et 2 secondes plus tard, il est déjà en haut. Donc, alors que la tour a l'air super simple d'accès.
Donc voilà, donc ça m'a saoulée. J'aimerais bien que ces films soient meilleurs. Mais, ou alors, ils arrêtent d'en faire.
Bah, ils ont dit qu'ils allaient en faire un autre, là, non, c'est ça.
Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc Star Trek,
on
Beyond,
est content de ne pas avoir payé pour aller voir.
Oui, parce
cinéma.
Que comme par hasard, ça passait pas dans nos cinémas et donc on aurait dû payer. Mais c'est pour ça qu'en fait, on se méfie chaque fois qu'on doit payer, parce que généralement, ça veut dire que c'est un mauvais film. Spider-Man, c'était une des exceptions,
on
mais
on est pas une deuxième fois, donc c'était bien.
Oui, mais tu vois, Valérian, Assassin's Creed.
Mais Valérian, c'est au Cinéplex. Ça, faut se méfier. Oui, mais au Cinéplex.
Mais oui, mais quelque part, ça, je suis sûre que Star Trek aussi, ça passait au Cinéplex. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand t'as des gros blockbusters qui passent pas au York, généralement, c'est mauvais signe. À part Spider-Man, apparemment.
Parce que Wonder Woman passait aussi.
Oui, mais il est passé au York entre temps. On a décidé de terminer la semaine sur un film qu'on aimait déjà, parce qu'on s'est dit tant qu'à faire. Et hier soir, on est retourné voir Cabin in the Woods, parce que le York, à côté de chez nous, fait des soirées spécial film d'horreur Creepy Crypt. C'est une fois par semaine.
Tous les samedis à 22h30.
Tous les samedis à 22h30. Et donc, généralement, c'est pas du tout pour moi parce que voilà, la dernière fois qu'on y allait, c'était en septembre parce que c'était Scream. Mais sinon, moi, je suis terrifiée par ce genre de truc, donc je ne vais pas voir ce genre de film.
Surtout, en fait, il commence le film par des bandes annonces. Oui. Et c'est le truc, c'est que tu vas voir un film, on va voir Cabin in the Woods parce qu'on le connaît, on l'a vu. C'est pas,
c'est pas
le film
peur,
du vrai horreur, etc. Donc, c'est, et là, il y a eu quoi? Comme bande annonce, il y a eu The Conjuring.
Ouais, que j'ai vu en plus comme film.
T'as
mais la bande annonce m'a fait. Mais en fait, non, mais je m'en souviens. Mais c'est juste que le film m'a pas fait peur. Putain, la bande annonce, par contre, m'a fait flipper.
Elle est très bien faite, cette bande annonce. Il y en a eu d'autres. Et surtout, à chaque fois, il passe un vieux film d'horreur, genre, mais. Justement série Z, le truc, mais sorti de, tu te demandes comment il existe. Et cette fois-ci, c'était quoi le titre?
The Toxic Avenger.
Oh mon Dieu, c'est...
C'est indescriptible. C'est pour ça que je vais chercher tout Internet pour le trouver et je vais vous le mettre dans le post.
Parce que
c'est indescriptible, c'est juste qu'on était juste tous morts de rire. Et ensuite, on a donc regardé Cabin in the Woods. Et il y a plein de choses à dire sur ce film et on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un film coécrit par Joss Whedon et Drew Goddard, réalisé par Drew Goddard, produit par Joss Whedon, avec Fran Kranz que j'adore, mais il y a aussi Jesse Williams, Chris Hemsworth, l'actrice principale est pas mal non plus, mais j'oublie tout le temps son nom. Et il y a Bradley Whitford et il y a comment il s'appelle, le papa de Six Feet Under.
Oui, j'oublie toujours son nom.
Ah, que j'adore aussi. Donc voilà, tous les noms seront sur le post.
Et t'as la nana, t'as...
Et t'as Amy Acker qui est dedans, bien sûr. Et donc c'est vraiment un film sur... quelque part, c'est un film qui justifie tous les trucs débiles que tu vois dans les films d'horreur et que tu dois ignorer parce que c'est débile. Et ce film, en gros, c'est genre, non, mais il y a des raisons. Et voilà les raisons.
Et c'est drôle,
et c'est intelligent, et la fin est très surprenante. Et
Le début est très surprenant. Tout
aussi, le dernier tiers est vraiment excellent. Enfin voilà, c'est un... Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et si vous l'avez vu, ben, dites-nous c'était quoi votre moment préféré.
Moi, je ne l'ai pas vu sur le grand écran, donc j'étais très contente. Yael l'avait ramené à Noël quand elle n'habitait pas encore à Berlin.
Noël 2012, je suis venue passer Noël avec toi. Là. Et j'ai ramené le DVD.
Et c'était quand? C'était le 25. Le 25.
Donc voilà, ça, on l'a regardé le matin.
On l'a regardé en journée. Quoi.
Ou l'après-midi.
Et après, on avait un Noël chez une amie, notre amie Cody, en fait, qui, tous les ans, et finalement, on regarde des films. Et finalement, on est allé chercher Cabin in the Woods pour le re-regarder. Donc, on l'a regardé deux fois dans la même journée.
Donc, en gros, juste pour clarifier, donc oui. On était chez Cody, on a dit, aujourd'hui, on a regardé un super film. Et nous tous regardons d'un air méchant, genre, et vous l'avez pas amené. Vous avez... Et du coup, Cody dit « Je te paye le taxi !» Et donc, Marine est repartie chercher le DVD.
Voilà,
et quand tu vois un film deux fois de suite le même jour et que c'est toujours aussi bien, tu peux te dire « Ok,
ça vaut le coup. »
C'est bon signe.
Et là, c'était ma troisième fois et en fait...
Ouais, moi, j'avais vu au
c'était
cinéma.
C'était vraiment super. J'ai adoré.
Et puis, Fran Kranz, il est où, quoi? J'adore ce mec. Il est excellent, cet acteur. Donc, mais je crois qu'il est un peu fou. Enfin, je l'ai vu une fois dans une convention en Angleterre. Il était un peu taré. La seule convention où j'étais spectatrice et pas animatrice. Et il avait l'air un peu chelou.
Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont quand même assez chelous.
Non, mais lui, par rapport à tous les autres acteurs que j'ai croisés, lui, mais smart chelou, mais chelou. Enfin, tu vois, genre, juste un peu... Voilà, bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le cinéma. Et maintenant, on va parler de...
Food.
Parce que quand même, faut pas déconner. Alors, juste avant Cabin in the Woods, on est allé dans une de nos petites adresses préférées qui s'appelle...
Pig and Tiger.
Pig and Tiger, c'est coréen. Il y a plein de petites choses. Le yuzaté, les boissons yuzaté. Il y en a du chaud et du froid. C'est très, très bon.
Avec de la mandarine.
C'est une espèce de thé à la mandarine. Et je crois qu'il y a du gingembre aussi dedans.
Il y a de la menthe. Je suis pas sûre qu'il y ait du gingembre, non. Il y a menthe et mandarine.
C'est délicieux. Plein de trucs sont délicieux. Le bim bim pap. C'est ça, parce que c'est des trucs spéciaux. Les Coréens, ils ont des noms drôles. Et le dessert, le panna cotta au matcha, c'était. Et
avec
au miel.
Avec et sésame.
Ah, mais c'est alors que j'aime pas les trucs au matcha d'habitude, mais là, c'était délicieux. Enfin, j'aime bien les cookies au matcha. C'est les Kit Kat au matcha qui me convainquent pas, alors que toi, t'es fan.
Il y en a pas souvent, donc au moins, c'est.
Au moins, on n'a pas à se battre pour les manger.
Ce Pig and Tiger, c'est un Schiller Promenade, c'est aussi à Neukölln.
Donc, Schiller Promenade.
Promenade.
Et l'adresse
est 32.
Ce sera sur le site. Donc ça, on a fait ça. On aime bien de temps en temps quand on va au Holberg aller manger là-bas. Et sinon, moi, j'ai mangé vietnamien mardi. Oui, mardi. Chez Pho Phan faux fan, l'adresse est sur
c'est faux fan,
qui est dans la Hermannstrasse et je crois que c'est 151, mais ce sera sur le site. Et c'est ce qui est génial, c'est que le plat est à 5,90€. C'était une espèce de truc énorme, délicieux. Et je dirais que après, quand tu vas dans d'autres restaurants, t'es là.
Mais pourquoi c'est aussi cher? On a trouvé des crevettes, c'est ça. Hein.
Non, moi je mange pas trop les trucs avec les crevettes. Moi j'ai mangé.
À la photo, pourtant, je pensais que c'était.
J'ai mangé un truc. C'était un mangue. Il y avait des cacahuètes, bien sûr, parce que moi dès qu'il y a des cacahuètes, je prends. Mais c'était un truc à la mangue, et c'était un curry à la mangue avec du poulet.
Ah, c'était du poulet qui était.
Oui, oui, ah oui, c'est ça. C'était du poulet pané
en mangue. J'aurais cru que c'était des crevettes vu la taille, en fait.
J'ai fait une photo qui était sur le notebook de Yaelka et que j'ai mis sur Instagram aussi. Et d'ailleurs, c'est incroyable comme Instagram, tu fais un post. Et genre, c'était un post pour dire oui, oui, je suis en train de monter les podcasts. Même si je bouffe. Dès que tu fais un post avec de la bouffe sur Instagram, t'as 250 likes. Enfin, j'exagère, 250, mais t'as plus de likes que si t'en as quand tu fais un post sur un bouquin, sur un film. Et les gars, Instagram, faut être pas un peu plus cultivé quand même. Bon, après, j'aime la bouffe, hein, mais donc voilà. Donc ça, c'était la bouffe de la semaine.
Non, moi, je suis aussi allée au café Am Körner Park, je ne sais plus quel jour. Je crois que c'était aussi mardi. Je crois que c'était le même jour où t'es allée manger
vietnamien,
où j'ai retrouvé une amie qui partait de Berlin pour retourner en France.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. C'est possible. En même temps, elle va à Montpellier. Elle ne retourne pas
à Paris.
À Paris.
Non, non, mais on vous aime, les Parisiens. Hein, c'est pas contre vous.
Mais Montpellier. Donc, surtout, c'est super sympa parce que comme ça, on peut aller à Montpellier. On a une adresse où aller. Donc, voilà. Je suis très contente. Pas qu'elle soit partie, mais qu'elle aille à Montpellier, du moins. Et le café Am Körner Park, ça a une vue magnifique. C'est, le café est un petit café tout à fait normal. Mais la vue est tellement belle que... C'est juste, et c'est à 500 mètres de la maison.
En fait, la vue donne sur le parc. Et alors, si vous y allez, vous allez. Ça s'appelle Café Am Körner Park. Je ne sais pas s'il y a une adresse précise. Faut aller dans le Körner Park. Il y a un tout petit parc, donc on le trouve assez facilement. Et vous risquez de me croiser de temps en temps dans ce café, parce que c'est un peu là que je vais beaucoup travailler avec Marie. Enfin, c'est le genre d'endroit où je suis en train d'essayer d'écrire et en fait je tricote. Mais les tables à l'intérieur sont faites de telle façon qu'on est face aux fenêtres et donc on regarde l'extérieur et on a la vue sur le parc. Et notamment en hiver, j'ai des photos depuis ma table de travail où il neigeait, où il avait neigé et on a une étendue blanche devant nous. Et avec deux, trois fois aussi, il y a des couples de jeunes mariés qui viennent prendre leurs photos de mariage, notamment des couples turcs où donc les femmes ont des robes de couleur vives. C'est assez fabuleux et j'ai plein de photos de voyeuses depuis mon ordi où je suis en train de prendre des photos des gens qui se prennent des photos dans le parc. Mais donc je suis d'accord, ce parc est absolument génial et c'est un super endroit pour travailler. En plus, il y a Internet.
Oui.
Et puis ils font du très bon latte macchiato et j'aime beaucoup parce que Marie elle arrive toujours avant moi et elle attend qu'un certain mec arrive parce que c'est lui qui fait des meilleurs cafés que l'autre. Et on peut manger aussi, mais c'est pas génial. Mais par contre, il y a des petits trucs, des gâteaux, des tartes, des trucs pour
ils ont une limonade que j'aime bien, moi. Ils ont toujours une limonade fraîche qui est très bonne au citron, enfin limonade. Mais normalement,
mais non, c'est... Non, limonade, ça c'est... Mais c'est pas en français.
Citronade. Citronade, oui, c'est citronade. C'est une citronade, exactement.
Moi, j'ai mis quand la première fois que je suis allée aux États-Unis, que j'ai entendu parler de lemonade, je pensais que c'était de la limonade. Mais non, c'était de la citronade.
La citronade.
Parce que c'est...
Autant pour moi, citronade.
Donc voilà, ça c'était pour le petit moment bouffe. Non, tu as quelque chose à nous dire?
J'ai un plan, en fait, pour la semaine... Enfin, dans la semaine qui va arriver, j'ai un ami à moi qui ouvre un bar à vin naturel le 12 août, donc samedi. Ça commence à 16h. Après, c'est censé s'arrêter à 22h, mais bon, ça risque de continuer. Ça se situe à Neukölln, dans la Friedelstrasse, au numéro 30. Il n'y a pas de nom. Ils disent que c'est not another pop-up, pas une autre pop-up, parce que les pop-up s'ouvrent tout le temps. Le pop-up, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des magasins éphémères, en fait.
Des magasins, des restos, des bars.
Exactement, qui sont là que pendant quelques mois, en fait.
Parfois quelques jours.
Ou quelques jours aussi. Et là, par exemple, c'est souvent, il y a un bâtiment, une vitrine, un magasin qui, pendant l'hiver, va être vendre des fringues et pendant l'été, est un magasin de glace. Donc, c'est juste parce que ça... C'est plus vendeur des glaces en été, mais moins en hiver, quoi. Donc voilà.
Oui, c'est l'entrepreneuriat berlinois dans toute sa splendeur, parce que c'est super agréable. Du coup, ça veut dire que plein de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un resto, qui n'ont pas les moyens d'acheter des murs, de louer des trucs, peuvent créer des trucs, se créer une clientèle et être suivis.
Exactement. Et là, donc, c'est un ami à moi qui s'appelle Pablo, qui est espagnol et qui donc ouvre ce bar à vin. Enfin, c'est un pré-opening parce que je pense même pas qu'ils sont encore ouverts, mais ils veulent déjà faire un peu de pub. Donc nous, c'est une super raison pour qu'on bouge nos fesses de la maison, parce que vu maintenant qu'on vous en a parlé, on est obligé d'y aller et on ne va pas être bloqué sur notre canapé à regarder des séries, parce que des fois le samedi soir,
c'est dur.
On a tendance à rester à la maison plutôt que sortir.
Oui, on habite à Berlin, mais nous on fait jamais la fête.
Bah, on sort, hein, mais on va plus sortir dans un café, restaurant,
en journée.
Non, pas forcément en journée, mais avant d'aller au cinéma, par exemple, on va faire d'une pierre deux coups, mais toujours lié à quelque chose, genre cinéma, série ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que
on socialise
finalement, voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime bien. J'ai un côté à toujours voir, à regarder les nouveaux restaurants qui ouvrent, les bars. Je suis inscrite sur plusieurs sites berlinois où ils vont faire de la pub, etc. Et c'est vrai que comme je suis toujours à vélo, je vais me promener, je vais voir, tiens, ça, c'était pas là, tiens, ça, c'est là. Et donc, j'essaie de me rappeler. Et...
C'est ça, parce que moi aussi, je suis toujours à vélo, mais moi, je vois rien. Moi, je dis, tiens, c'est là, c'est nouveau, ça. Et toi, tu dis, ça fait 10 ans que ce magasin est à cet endroit-là. Oups.
Je suis toujours en train de regarder après.
C'est pour ça que nous sommes si bien, si complémentaires.
Voilà,
et du coup, moi, je te suis les yeux fermés, je fais, oui, oui, bien sûr, on y va, je m'en fous. Et j'aime beaucoup parce que des fois, tu me dis, alors oui, un événement, alors en fait, et tu commences à m'expliquer, je suis là. Je m'en fous des détails. Tu veux qu'on y aille, j'y vais. J'aurai une opinion une fois que je serai sur place. Mais là, pour l'instant, je m'en tape.
Donc voilà, en tout cas, si vous êtes à Berlin le 12 août...
C'est à 16h et il y aura
le vin. C'est à 16h, il y aura du vin, il y aura des tapas, il y aura des gens sympathiques.
Et il y aura le lien sur le site.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a parlé bouffe, parlé machin, parlé trucs rigolos, on va parler juste quelques minutes politique. Alors, je ne veux pas vous faire 36 heures parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quel point je suis fan des satires politiques américains. C'est quand je dis satire politique, je parlais de l'objet, la satire, pas des satires, donc des satiristes. C'est pas un mot en français non plus, mais c'est un mot en allemand par contre. En gros, tous les gens qui sortent de l'école Jon Stewart du Daily Show, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a donc toujours The Daily Show, mais avec Trevor Noah, qui est merveilleux. Il y a Samantha Bee avec Full Frontal. Il y a Stephen Colbert qui est sur CBS avec The Late Show. Et il y a John Oliver sur HBO avec Last Week Tonight. Là, je voudrais parler plus particulièrement de Samantha Bee, qui vraiment est d'un engagement et d'un activisme merveilleux. Je suis en train de rattraper les épisodes parce que je ne peux pas ne pas tous les regarder. Donc là, je rattrape et j'en suis à peu près à ce qui s'est passé en juin. Et elle a fait plusieurs épisodes de suite avec des segments incroyables, mais il y en avait un particulier où elle a fait un segment sur l'autorisation du mariage avant 18 ans en disant qu'il faudrait interdire les mariages avant 18 ans. Et c'est très intéressant parce qu'elle pose tout un tas de questions sur la problématique des droits des femmes notamment, mais pas seulement. Et c'est vrai que tu dis, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on autorise le mariage avant 18 ans? En fait, ça n'a aucun sens. Après, je connais des gens, la mère de mon ex a pu se libérer de sa famille parce qu'elle a eu le droit de se marier. Mais elle avait 19 ans à l'époque. Mais pour le coup, elle n'avait pas le droit sans l'autorisation de ses parents. Et c'est comme ça qu'elle est sortie du joug de sa famille. Donc bon. Mais on n'en est plus à cette période-là. Et un des trucs qu'elle dit qui est vraiment intéressant, et je pense qu'en France, ça doit être un peu pareil, c'est que le problème, c'est que des jeunes filles de moins de 18... C'est que les refuges de femmes battues n'acceptent pas les mineurs. Et donc, une gamine de 15, 16, 17 ans aux États-Unis, hein, qui s'enfuit d'une situation... de semi-esclavage qu'est son mariage, ne peut pas être reçue par un refuge. Donc elle doit vivre dans la... Oui, bah non, bah, sans rien. Donc tout là, ça s'appelle Child Brides et c'est vraiment génial. Et juste après, son segment d'après, elle a fait un sujet sur les militants... les membres du club de débat de Rikers Island, qui est la grosse prison à côté de New York, qui est en train d'ailleurs d'être fermée parce que c'est un truc de violence et pas possible. Et donc, elle est allée voir ceux qui sont en prison, mais qui font comme exercice de sociabilisation, sont dans un debate club. Et le sujet, c'était défendre l'interdiction d'immigration proposée par Trump.
Okay.
Et celui qui gagne à chaque fois était du côté de... Il devait défendre le truc. Donc il a perdu et il a dit, bah oui, mais en même temps, c'était indéfendable, ce truc, c'est complètement débile. Et il y avait un truc sur la logique, la rhétorique,
l'intelligence de tous ces membres de ce club, qui sont tous des gens qui sont en prison, était assez géniale. Et il y a une, celle qui a gagné, par contre, à un moment, elle lui parlait, elle lui disait, elle lui disait un truc sur le fait que oui, peut-être que heureusement qu'elle était en prison, parce que sinon Trump allait essayer de la poursuivre après ce qu'elle avait osé dire sur lui. Et à la fin de l'émission, elle était là, parce qu'elle était sortie de prison entre temps.
Ah, c'est cool.
Je vais pleurer. Donc ça, c'est génial aussi. Je vous mettrai les liens. Mais celui qui m'a le plus... Là, j'ai vraiment fait un truc à haute dose de toutes ces émissions-là. J'en ai regardé 3-4 semaines d'un coup. Et alors déjà, il y a le fait que Samantha Bee, je sais qu'elle a fait une pause pendant le mois de juillet, et j'ai appris que c'est parce qu'elle est partie en Irak faire des sujets. Stephen Colbert, à un moment, est parti en vacances et il a fait des sujets sur la Russie. Il est allé en Russie. Ouais. On est quand même sur des gens qui font de la comédie, mais qui sont complètement impliqués dans la vie politique et géopolitique de leur pays. Et je trouve ça vraiment remarquable. Mais celui que j'aime par-dessus tout, c'est Trevor Noah. Et je trouve ça d'ailleurs extrêmement injuste, parce que vu que c'est le remplaçant de Jon Stewart, on en parle très peu aux États-Unis, notamment. Les médias ont l'air de toujours considérer qu'il est moins bien, alors que c'est totalement faux. Il est très différent et il n'est pas moins bien. Tu sens par contre que tous ces invités de couleur, eux, le regardent et l'apprécient, qu'il y a vraiment quelque chose pour les gens qui ne sont pas blancs d'important avec Trevor Noah. Et il a fait une série de... En fait, il y a 3 vidéos qui existent au moment du jugement de Fernando Castile, qui est le mec qui s'est fait tuer par un flic alors que sa petite amie et sa fille étaient dans la voiture, et la petite amie a filmé sur Facebook. Il a mis en Facebook Live tout de suite ce qui s'est passé après pour se protéger il y a un an et quelques. Et quand le jugement, le flic a été complètement acquitté, et Trevor Noah a fait un segment là-dessus en disant que c'était hallucinant parce que les défenseurs pour des armes aux États-Unis pour une fois fermaient leur gueule, alors que le mec s'est fait tuer juste parce qu'il avait une arme légale et qu'il l'a dit au flic et que le flic a paniqué. Et ensuite, il y a un extrait des moments entre la place des pubs où il est en train de parler au public, Trevor Noah, et où il raconte sa propre expérience avec les flics aux États-Unis. Et le lendemain, entre-temps, il y avait une vidéo qui a été sortie, qui est la dashcam, donc c'est-à-dire ce qui a été filmé depuis la voiture de flic sur ce qui s'est passé avec Fernando Castile. Et en voyant ça, il a décidé de faire un nouveau segment où il en parle, et ça, je l'ai montré j'ai montré les 3 à Marine hier.
J'ai pleuré.
Mais c'est totalement... Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est totalement horrible à regarder, parce qu'en gros, tu entends les voix, donc tu vois l'injustice totale du fait que ce flic a juste paniqué sans raison et a tiré 5 fois sur un homme, et comme Trevor Noah l'explique, juste parce qu'il est noir. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucune autre explication de la panique qui a saisi ce flic.
Et puis après, il dit de ne pas bouger, quoi. C'est genre... Tu fais genre... Je pense qu'il est en train de mourir, il bouge parce qu'il a mal. Tu vois ce que je veux dire?
Non, il dit ça à sa nana.
À sa nana, ah, putain, en plus. Ah oui, et puis tu vois, oh, c'est horrible.
Enfin, il faut regarder le truc en entier, parce que tout ce qu'on peut vous dire ne leur ferait pas justice. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je suis désolée, ça vaut vraiment le coup. Ce que dit Trevor Noah est très intelligent. Il déconstruit les choses de façon... Je ne sais pas, il y a quelque chose du fait que j'ai l'impression que Jon Stewart n'aurait jamais pu faire ce segment-là de cette façon-là.
Non, tout à fait.
Surtout parce qu'il aurait fini par une blague. Il aurait fini par de l'ironie. Et Trevor Noah est quelqu'un de très sérieux.
Oui, tout à fait.
C'est aussi quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et c'est aussi quelqu'un qui a... Ben voilà, il a vécu l'apartheid, même s'il était très jeune et qu'il ne s'en souvient pas. Il a été élevé par des gens qui ont grandi là-dedans. Et donc, du coup, quelque part, il a quand même une désir. Il y a moins ce côté... ouais, de toute façon, tout est pourri, ça ne sert à rien et tout.
Non.
Il y a ce côté...
Il a toujours de l'eau. Hope,
enfin de l'espoir.
Alors que tout ce qu'il dit te donne pas envie d'avoir de l'espoir, quoi. Tu dis juste, mais dans quel pays on vit, quoi. Mais d'une façon tout à fait. Qui parle à beaucoup de monde, en fait.
Bah, c'est parce qu'il parle du monde. Enfin, il parle de ces sujets-là, pas comme s'ils étaient juste ridicules, mais comme. Il replace l'humanité et l'importance de ces questions-là. Et du coup, ça donne envie d'agir et de réfléchir. Plutôt que le contraire. Donc voilà, Trevor Noah, je viens de me payer un bouquin sur le Daily Show. Ça fait longtemps que j'essaie d'écrire un truc sur Jon Stewart, mais plus je réfléchis dessus. Au début, c'était un article, un blog, et puis finalement, c'était un article fleuve en plusieurs parties, et je suis en train de me dire, je me demandais si c'est pas un livre. Il y a quelque chose de... Alors, même si ce que je viens de dire, je disais que Jon Stewart n'aurait pas pu le faire, mais c'est ça aussi, c'est ça. Jon Stewart, il a créé des choses que les autres
exploitent pour les améliorer, pour les agrandir, pour en faire quelque chose d'encore plus fort et encore plus saisissant. Et du coup, je trouve que c'est une leçon en général de comment utiliser la satire, l'art, le divertissement pour parler du monde, pour parler de la politique. Et c'est quelque chose que... Il y a quelques humoristes politiques français que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il leur manque toujours un truc pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se moquer de ce qui ne fonctionne pas, mais ne jamais vraiment expliquer ce qui fonctionne, ne jamais vraiment expliquer leur position et leur point de vue. Et du coup, ça donne vraiment envie d'écrire un truc, et c'est pour ça que ce bouquin me passionne. C'est une histoire orale du Daily Show, donc c'est tout un tas de gens qui ont travaillé dessus pendant 16 ans et qui racontent comment c'était de travailler dessus et qui racontent comment ils travaillaient, comment ils réfléchissaient, comment ils avançaient, comment ils ont appris des leçons. Et j'ai envie de m'abreuver de ça et d'essayer de créer une espèce de bouquin qui parlerait de voilà comment ils l'ont fait, voilà comment on peut penser ce genre de choses, voilà à quoi ça sert, voilà pourquoi il faut le faire. Et puisque je pense que le militantisme et l'activisme doit passer par des choses positives et pas que par des choses négatives de destruction, de critique, d'attaque. Le fait de passer par le rire, le fait de passer par quelque chose qui fait plaisir, le fait d'informer les autres par un truc qui va les divertir, qui va aussi leur apporter de la joie, je trouve que c'est vraiment important. Bon voilà, tirade tunnel fini. C'était pour parler de politique.
Musique, un petit peu.
Oui, parlons musique, t'as raison. donc parlons musique. Alors justement, chez Trevor Noah, juste l'épisode où il y avait le truc de faire un docastir. Donc après, il y a une espèce de segment, donc quand il raconte, quand il monte la vidéo et tout. Ensuite, il y a un espèce de segment un peu chelou avec DJ Caleb. J'ai pas trop bien compris. Je pense que c'était un moment genre, faisons n'importe quoi parce qu'on est trop déprimés. Mais juste après, l'invité, c'était Jason Isbell, qui est un chanteur de musique folk, alors on pourrait dire country. Il vient d'Alabama, il faisait partie des Drive-By Truckers. Et cette interview... Alors moi, ce mec, j'ai son album d'avant, qui s'appelle Something More Than Free, que j'ai récupéré parce qu'on en parlait dans je ne sais plus quelle émission. Et en fait, très souvent... quand je mets musique étant dans le désordre, j'entends un truc de lui et je fais oh, c'est vachement bien. Et là, en fait, j'ai découvert ce mec et c'est génial parce que toute l'interview, il parle de notamment ses positions politiques. Et Trevor Noah lui dit franchement, vu que tu viens de l'Alabama et vu l'accent que t'as, ça me fait super bizarre que tu dises ce genre de choses. Donc voilà, c'est mon petit teaser pour vous dire comment il est placé. Et ça donne tellement envie de l'écouter plus. Et son dernier album s'appelle The Nashville Sound. Et je suis en train d'attendre d'avoir les sous de m'acheter le vinyle. Hein. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir le vinyle. Et apparemment, son album avant Something More Than Free, c'est un album sur sa recovery parce qu'il est allé en cure de désintoxication en 2012, poussé par une de ses... Je crois qu'à l'époque, c'était sa collègue qui, entre-temps, est sa femme. Je sais pas, il y a plein de trucs qu'on l'air cool dans l'histoire de ce mec-là. Et c'est rigolo parce qu'il est passé dans l'épisode de Colbert juste avant et j'ai zappé, juste pour chanter une chanson. Et j'ai zappé la chanson en me disant « Oui, je l'aime bien, mais bon... » Et ensuite, j'ai vu l'interview et je suis revenue à l'épisode de Colbert. Donc voilà, donc Jason Isbell, c'est un peu mon truc musical, parce que du coup, j'ai réécouté son album cette semaine, c'est un peu mon truc musique de la semaine. Toi...
Moi, j'ai rien de particulier, en fait, à part qu'on a parlé des années 90.
Oui,
en
pour une raison top secrète dont on ne peut pas révéler pour l'instant.
Vous le saurez la semaine prochaine.
Voilà, qui n'est pas liée à vous, qui est liée à notre vie, mais quand même... Et du coup, on s'est dit, alors, au début, on était là, il y a une compil à faire sur des chansons qu'on aimait dans les années 90. Puis après, au bout de 2 heures, on était là, bon, en fait, il y a peut-être une compil par mois. J'ai dit, peut-être que ça peut être une émission spéciale, peut-être que ça peut être un podcast. Donc voilà, donc on va reparler un moment de tous les trucs qu'on aimait dans les années 90, de Case Choice à Garbage, à Placebo, à Radiohead, bien sûr.
Amuse,
Eels, bien sûr. Et un autre groupe dont on va parler à la fin de cet épisode pour la chanson de Marine. Mais ça, ce sera dans une minute. J'ai une dernière recommandation musicale pour vous, qui est, j'écoute une émission de musique sur NPR qui s'appelle All Songs Considered. Et là, ils viennent de faire un épisode spécial où ils ont invité un duo de DJ des années 90 qui ont à peu près changé l'industrie du hip-hop, apparemment. Ils avaient une émission dans la radio de l'Université de Columbia à New York qui passait de 1h à 5h du matin le vendredi soir. Et vous avez genre tous les gens importants de la hip-hop qui étaient émergents qui passaient. Ils s'appellent Stretch and Bobito. Et apparemment, donc il y a plusieurs choses. Un, il y a un documentaire sur ces années-là qui a l'air passionnant. Qu'il faut qu'on regarde absolument. Deux, ils ont une nouvelle émission qui s'appelle What's Good, où ils reçoivent des gens très différents et ils parlent de pop culture en général. Et trois, de les entendre parler de leur émission qui était sur la fréquence FM, donc qui pouvait être reçue par quatre États, mais qui était enregistrée et vendue sur cassette dans le monde entier, illégalement, qui fait que quand ils allaient à Tokyo, il y avait des gens qui les reconnaissaient dans la rue.
C'est hallucinant.
Et quand on leur demande, mais comment vous faites pour, vous avez fait pour faire une émission pareille, ils disaient, mais on faisait ce qu'on aimait, on n'avait pas de règles, on voulait parler à tous les gens qui avaient des choses à raconter, on voulait que quelqu'un, même s'il n'avait pas d'album, s'il n'était pas signé par un label, mais il avait un couplet d'écrit et qu'il voulait le partager avec nous, on voulait qu'il vienne, on s'en foutait que ce soit des nanas, des gens de couleur, des gens blancs, tout le monde était invité du moment qu'ils étaient bons. Et je me suis dit, oh, mais c'est moi aussi ce que je veux faire. Du coup, c'est bon, on est sur la bonne voie. Nous aussi, à Tokyo, on va nous reconnaître dans la rue. Sachant que je tiens à dire que ce n'est pas une question d'ego. Hein. C'est, bon, je suis hyper égomaniaque, mais si j'ai envie de partager, c'est parce que j'ai envie de partager les choses aussi. Ce n'est pas pour moi. C'est parce que plus les gens me connaissent, plus les gens vont être curieux des trucs dont je parle. Et du coup, ça va faire diffuser des choses. Voilà, donc je tiens à dire que ce n'est pas du tout de l'égomanie. Égomania. Non, non, pas du tout. Je suis tout à fait humble et tout à fait normale. La, 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 la.
Tout à fait. Je confirme.
Merci, Marine. En tout cas, merci pour cette discussion passionnante. On arrive à la fin. On va donc terminer sur le choix musical de Marine dans une minute. Mais avant cela, j'ai une petite faveur à vous demander, cher poditeur. En fait, on a besoin de votre aide. Comme ce concept est neuf et qu'on a pleinement l'ambition d'en faire le podcast de langue française le plus écouté dans le monde, comme je viens de le dire, on vous remercie de nous dire ce qui vous plaît. Alors, vous pouvez aussi nous dire ce qui ne vous convainc pas trop pour l'instant, et puis nous dire aussi ce que vous aimeriez qu'on fasse. Mais moi, je crois vraiment dans le renforcement positif, donc plus vous nous dites ce qui fonctionne pour vous, plus on ira dans cette direction-là, et on pourra s'améliorer. Alors, si ça vous semble parfait, par contre, n'hésitez pas à nous le dire aussi, et puis à le partager à profusion, mais malheureusement, ça risque d'évoluer, donc ça va peut-être moins vous plaire à l'avenir. On espère en tout cas que vous resterez avec nous pour l'évolution. N'oubliez pas de retrouver toutes les références des choses dont on vous parle sur le site I Cannot Sit Still. Je vous l'appelle www.ica2notstitstil.com. Pour vous récompenser, à la fin du post, il y a un goodie surprise, une petite pépite de pop culture dont on va parler la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Toi, Marine, sur Twitter, tu es à
Morskaya, M-O-R-S-K-A-Y-A.
Qui est le surnom que je t'ai donné pendant que j'habitais en Russie. Moi, c'est Yaelka, aussi le surnom qu'on m'a donné pendant que j'étais en Russie. Y-A-E-L-K-A. Et tu es aussi sur Instagram.
Sous le nom de Écureuil Berlinoise. E-C-U-R-U-E. Non, je suis en train de raconter. Je suis tombée.
J'allais dire, bah, vous n'avez pas besoin. Vous serez étonnés du nombre de gens qui ont besoin qu'on épelle Écureuil. Dans notre vie quotidienne, on le sait. Bon, en tout cas, E-C-U-R-E-U-I-L, c'est ça?
Oui, berlinoise, B-E-R-L-I-N-O-I-S-E, tout accroché.
Et moi, c'est Yaelka A, c'est-à-dire Y-A-E-L-K-A-A, tout simplement parce qu'un abruti avait pris Yaelka. J'ai pas essayé de voir qui c'était.
C'est une fille, je pense.
Et sinon, il y a aussi un Twitter pour le site, I Cannot Sit Still, donc c'est I-C-A-N-O-T-S-I-T-S-T-I-L, un seul L, parce que l'autre avait déjà été pris.
Encore un abruti.
Voilà, mais vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Alors, si vous allez sur la page du notebook de Yaelka, il y a un bouton envoyer email qui va arriver sur le site. Donc, bah, écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous aimez. Non, franchement,
s'il vous plaît, parlez-nous, on est toutes seules.
C'est ça, sinon je parle que l'une avec l'autre et voilà, c'est trop terrible. Bon, sur ce. Marine, en parlant de délire entre toi et moi. La
chanson, c'est Never There du groupe Cake, qui est un groupe américain californien, qui date de 1998. Et c'est une chanson qui nous est très personnelle, en fait, parce que ce groupe, on adore ce groupe. Cette chanson a... Comment je peux dire ça?
Bah, on l'a utilisé pour un des premiers messages. Quand la première fois qu'on habitait ensemble, on a essayé d'utiliser la musique pour faire le message.
Le message, oui.
Du répondeur. À l'époque, il y avait le répondeur. C'est aussi la chanson qu'on chante a cappella de façon spontanée au milieu de la rue.
Oui, c'est vrai qu'on connaît, super. Surtout, c'est sur le troisième album, en fait, de Cake, qui est Prolonging the Magic. Et c'était en 98, mais donc on connaissait Cake avant.
Pour la petite histoire.
Mais pour la petite histoire, c'est juste qu'en fait, avant qu'elle parte en Russie, c'était quelle année exactement?
97.
97, ouais. C'était l'été 97. On était à la FNAC et je voulais absolument m'acheter un CD de Cake qui est Fashion Nugget.
Parce qu'il était en promotion. À l'époque, et c'était en francs, mais je ne sais plus combien c'était. Mais en gros, c'était en promotion.
C'était un prix vert.
Mais c'était un prix vert, c'est ça.
Et en gros, et puis tu me disais, mais non.
Oui, j'étais convaincue de ne pas l'acheter parce que ça ne servait à rien. Parce que tu étais là, mais non, mais je crois qu'ils sont bien ce groupe. Et j'étais là, mais non, Marine. Du coup, c'est resté Fashion Nugget, l'album que j'ai empêché Marine d'acheter pas cher. Alors qu'on est devenu fanatique du coup, plus tard. Et c'était un de nos concerts préférés en début 99. Début 99, c'est ça. Sachant qu'on a cru pendant toute la seconde première partie que...
Premier groupe qui était Fountains of Wayne.
Non, oui, c'est ça. Sinon, il y a eu un premier groupe d'Hawaïens chelou. Donc, on a cru que ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a Fountains of Wayne qui est apparu. On fait, bon, bah, ça doit être eux, Cake. Puis, ils ont chanté Denis. Ils ont fait, ah oui, oui, c'est bon, on la connaît, celle-là. Et ensuite, quand Cake est vraiment arrivé, on a fait, ah...
Ça n'a rien à voir.
Ça, c'est le genre de truc qui t'arrive que quand t'as 20 ans. Donc, voilà. Never There, de Cake. Tu lances la chanson?
Je lance la chanson.
I need your arms around me, I need to feel your touch. Candles, fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle, fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me we're all on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there, you're never ever 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 there. Never there, you're never there, you're never ever 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 there.
Tell me that you care, but when I need you, baby, baby, you're never there. On the phone, don't long distance, always you sound strong persistence.
Persistence?
You say you're too busy, I wonder if you even need me ever there. You're never there.
C'est toujours le fou rire garanti. C'est trop.
The flies away, a candlestick of flame. Loved you yesterday, your love was just a game.
It flies away,
a candlestick of flame.
Love you yesterday, your love was just a game. You tell me that you love me so, you tell me that you care. But when I need you, baby, baby, you're never there.